Au quotidien, avec Denis Martin Chabot.
Bonjour, 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 bonjour. Pourquoi quatre fois bonjour? Parce que c'est mieux qu'une seule fois. Ben oui. Alors, c'est Denis Martin Chabot au micro qui a retrouvé sa voix. La pollution est partie déjà ce matin. C'était une nette amélioration. C'est mardi 29 juillet, 210e journée de l'année. Il en reste 155 pour le bye-bye. Une journée assez chargée aujourd'hui parce que, ben, au niveau de la météo, ben, c'est toujours encore notre ami Dex, hein, de son nom complet Humidex, qui vient nous achaler. C'est un ami collant, qu'on dirait. Alors, pas mal partout au Québec, en Outaouais, province maritime. Chaud et humide ressenti au Québec allant jusqu'à 36. Ailleurs, c'est autour de 26. Il y a quand même des précipitations à venir en Abitibi et dans les provinces maritimes dans la fin de l'après-midi. Terre-Neuve et Labrador, c'est l'exception. C'est nuageux et plus frais là-bas, autour de 25 degrés. L'Ontario, ah oui, là aussi des ressentis autour de 35. On a même de la fumée à Thunder Bay. Et pour les gens de Sudbury, de la pluie en après-midi. Chaud et humide aussi en Colombie-Britannique, 29 à 31. Avec peut-être des précipitations à l'intérieur des terres en après-midi. Même scénario en Alberta, Saskatchewan ou Manitoba. Mais au Manitoba, Saskatchewan et Manitoba, on parle de fumée. Hein, les feux de forêt dans l'ouest continuent de sévir dans l'atmosphère. C'est ce qu'on avait ici au Québec tout le week-end jusqu'à hier. Au programme aujourd'hui de l'émission, on va parler du congrès VIH et ITSS qui se déroule à Montréal, avec un congrès international très important, donc qui se déroule à Montréal. On va en parler avec le co-organisateur de ce congrès, le docteur Marc Stében. On a la chronique économie aujourd'hui. Il sera question, évidemment, de cette guerre commerciale que nous livrent les États-Unis, avec les États-Unis livrent à tout le monde, et les conséquences, en fait, sur notre économie. On va aussi avoir notre chronique littéraire, chronique livre avec Anne-Marie Aubin. Et on va terminer avec un contrôle, en fait, des activités de contrôle d'espèces exotiques envahissantes sur le Mont-Royal et la protection de la conservation du papillon monarque. On parle de ça, donc, en fin d'émission. Quelques petits faits notoires aujourd'hui, donc l'éphéméride. 1836, en France, l'Arc du Triomphe est inauguré à Paris, commandé par Napoléon pour honorer les armées françaises. Le monument est emblématique et devenu un symbole de fierté nationale et un site de commémoration. 1981, je ne sais pas si c'était assez vieux pour ça, Samuel.
J'étais pas encore né.
Samuel Badel qui fait notre mise en onde. Et mon Dieu, qu'on se sent vieux. Moi, j'avais déjà 20 ans cette année-là. C'était le mariage du siècle entre le prince Charles et Lady Diana Spencer à Saint-Paul-de-Londres. Et puis, c'était la première diffusion en 1954 de Lord of the Ring, The Fellowship of the Ring. C'était œuvre incroyable de J.R.R. Tolkien qui est devenu un film par la suite. Et puis, les anniversaires célèbres, je ne sais pas si c'était célèbre dans le sens de célèbre positif, mais 1883, naissance de Benito Mussolini. Non, j'étais vraiment pas au monde à cette année-là non plus, Samuel. Homme politique italien, fondateur du fascisme et dictateur de l'Italie de 1922 à 43. Sa politique expansionniste a conduit à l'implication de l'Italie dans la Seconde Guerre mondiale. 1938, Peter Jennings, journaliste et présentateur de nouvelles canadien, connu pour son rôle de présentateur de nouvelles sur le réseau états-unien ABC pendant plus de deux décennies. Décès marquant, 1890, décès de Vincent Van Gogh, ça se passe de présentation. Et 1974, on écoute ça. Eh oui, c'était le décès en 1974 de Cass Elliot, chanteuse états-unienne, membre du groupe de Mamas and the Papas, connue donc pour ce hit California Dreaming. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale du tigre pour sensibiliser à la protection de cet animal majestueux menacé par le braconnage et la destruction de son habitat naturel. Et c'est la fête de la République aux Maldives, journée donc qui est reconnue, marquant l'instauration de la République en 1965, fin du protectorat britannique. Évidemment que une certaine Margaret Thatcher a essayé de changer au cours de son règne comme premier ministre du Royaume-Uni. On s'en va en musique.
Je sais que tu seras belle. Je sais que tu rendras le monde plus fort. Dis comment tu t'appelles. Ma fille qui n'existe pas encore. J'ai du temps devant moi, avant toi. ce que j'ignore, 10 ans avant que tu viennes. Le monde n'est pas le plus beau des décors, mais dans ton regard, il y aura ce que les autres n'ont pas pour le voir. Je donnerai tout ce que j'ai déjà, tu peux me croire, avant même que tu sois avec moi. Quelle que soit notre histoire, je serai fier de la voir. Si on a la nouvelle qu'on a gâché le plus beau décor, même si c'est sans appel, sache que je t'appellerai encore. Et je serai toujours là à chaque fois que personne ne sera d'accord. Pour te laisser tes ailes, faudra couper les miennes d'abord. Dans ton regard, il y aura ce que les autres n'ont pas pour le voir. Je donnerai tout ce que j'ai déjà, tu peux me croire, avant même que tu sois avec moi. Quelle que soit notre histoire, je serai fier de l'avoir. Ce qu'on a fait, tu peux encore le changer. Et quand je m'endors, moi je rêve que tu viennes tout déranger. Et qu'on espère encore. Dans ton regard, il y aura ce que les autres n'ont pas pour le voir. Je donnerai tout ce que j'ai déjà, tu peux me croire, avant même que tu sois avec moi. Quelle que soit notre histoire, je serai fier de la voix. Ce qu'on a fait, tu peux encore le changer. Dans ton regard, ce qu'on a fait, tu peux encore le changer. Dans ton regard, moi je rêve que tu viennes tout déranger. Avant même que tu sois avec moi. Quelle que soit notre histoire, je serai fier de la voix.
Et c'était la chanson Ton regard de Joseph Kamel.
Le pire scénario de famine se confirme, alerte les experts. C'est un article de l'Associated Press. Alors, le pire scénario de famine se déroule actuellement dans la bande de Gaza, a prévenu l'autorité internationale de référence en matière de crise alimentaire dans une nouvelle alerte. Cette alerte ne constitue pas encore une déclaration officielle de famine. Elle est publiée au milieu du tollé suscité par des images d'enfants émaciés à Gaza et des informations faisant état de plusieurs des dizaines de morts liés à la famine après près de 22 mois de guerre. La pression internationale a conduit Israël à annoncer ce week-end des mesures, notamment des pauses humanitaires quotidiennes et dans les combats dans certaines parties de Gaza et des largages aériens. Malgré tout, les Nations unies et les Palestiniens sur le terrain affirment que peu de choses ont changé et que des foules désespérées continuent de se précipiter sur les camions de livraison avant qu'ils n'atteignent leur destination. Selon le cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire, IPC, leur acronyme, Gaza était au bord de la famine depuis 2 ans, malgré les événements récents ont considérablement aggravé la situation, notamment en raison du renforcement des blocus par Israël. Une déclaration officielle de famine, qui est rare, nécessite des données que l'impossibilité d'accéder à Gaza et la mobilité réduite à l'intérieur de l'enclave ont largement empêché. L'IPC n'a déclaré la famine que quelques fois, on se rappelle, en Somalie en 2011, au Soudan du Sud en 2017 et 2020 et dans certaines parties de la région du Darfour et au Soudan, donc l'année dernière. Malgré des experts indépendants affirment qu'ils n'ont pas besoin d'une déclaration officielle pour savoir ce qu'ils constatent à Gaza. Tout comme un médecin de famille peut souvent diagnostiquer un patient qu'il connaît bien sur la base de symptômes visibles sans avoir à envoyer d'échantillons au laboratoire et à attendre les résultats, nous pouvons également interpréter les symptômes de Gaza. Il s'agit bien d'une famine, a tranché Alex Deval, auteur de Mass Starvation, The History of Future of Mean et directeur de la World Peace Foundation en entrevue avec l'Associated Press. Alors, une région est classée en situation de famine lorsque les trois conditions suivantes sont réunies. Au moins 20% des ménages souffrent d'une pénurie alimentaire extrême ou sont pratiquement affamés. Au moins 30% des enfants âgés de 6 à 5 mois souffrent de malnutrition aiguë ou d'émaciation, ce qui signifie qu'ils sont trop maigres pour leur taille. Au moins 2 personnes ou 4 enfants de moins de 5 ans sur 10 000 meurent chaque jour de faim ou des conséquences de la malnutrition et de maladies. Le rapport se base sur les informations disponibles au 25 juillet et indique que la crise a atteint un tournant alarmant. On souligne donc que les données montrent que le seuil de famine a été atteint en matière de consommation alimentaire dans la majeure partie de Gaza, qui se trouve à son niveau le plus bas depuis le début de la guerre, et qu'en matière de malnutrition aiguë dans la ville de Gaza aussi. Alors, selon le rapport, près de 17 enfants sur 100 âgés de 5 ans dans la ville de Gaza souffrent de malnutrition aiguë. De plus en plus d'éléments témoignent donc d'une famine généralisée. Les services de santé essentiels et d'autres services ont cessé de fonctionner. Selon le Programme alimentaire mondial, une personne sur 3 à Gaza est privée de nourriture pendant plusieurs jours d'affilée. Les hôpitaux signalent une augmentation rapide des décès liés à la faim chez les enfants de moins de 5 ans. La population de Gaza, qui compte plus de 2 millions d'habitants, est confinée dans des zones de plus en plus aiguës. La dernière analyse de l'IPC publiée en mai avertissait que Gaza risquait de sombrer dans la famine si Israël ne levait pas son blocus, ne mettait pas fin à sa campagne militaire. Sa nouvelle alerte appelle à l'action immédiate. Si rien n'est fait maintenant, une grande partie de Gaza sera frappée par un nombre massif de morts. Et on rappelle d'ailleurs que hier, le président des États-Unis a dit ce qu'il voyait à la télévision. Ces images-là lui disaient que ça n'allait vraiment pas bien, qu'il y avait vraiment une famine et qu'il fallait agir. Alors, les États-Unis ont annoncé un programme d'aide qui va débuter bientôt. En fait, c'est pas déjà commencé. Je vous parlais donc de l'offre alimentaire. Le président Trump a annoncé la mise en place de centres de distribution alimentaire par les États-Unis sur la bande de Gaza, dévastée par la guerre, où, selon lui, il y a des signes d'une vraie famine. Entre-temps, les agences internationales ont commencé à distribuer des aides dans le territoire palestinien assiégé par Israël depuis le blocage des ponts de passage la veille, à la faveur d'une pause limitée dans les hostilités annoncées dimanche par l'armée israélienne. Mais l'armée israélienne a poursuivi son offensive à Gaza hors de ces heures des zones concernées par la pause. La défense civile fait état de 54 morts par tir et des bombardements israéliens. Alors, 2 organismes israéliens de défense des droits de la personne ont également accusé Israël de génocide, ce que le gouvernement israélien a fermement rejeté. Évoquant des images d'enfants à Gaza à la télévision, donc M. Trump a déclaré « c'est une vraie famine », ajoutant qu'il n'est pas possible de simuler ça. Beaucoup de gens meurent de faim. Nous allons mettre en place des centres alimentaires où les gens pourront entrer librement et sans limite. Nous n'aurons pas de clôture, a déclaré le président Trump. Un congrès mondial sur les infections transmises sexuellement et par le sang, ce qu'on appelle les ITSS, et le VIH, le virus de l'immunodéficience humaine, à court au Palais de Justice, mon Dieu, que je suis mêlé ce matin, au Palais des Congrès de Montréal, et ça se déroule jusqu'à demain, organisé par la Société internationale pour la recherche sur les maladies transmissibles sexuellement et l'Union internationale contre les infections sexuellement transmissibles. Ce congrès accueille 1500 spécialistes de la santé, des entrepreneurs et des patients du monde. Plusieurs avancées y sont discutées, notamment l'autodépistage à domicile, l'intelligence artificielle et on parle aussi des coupes budgétaires survenues sous l'administration Trump. Alors, pour parler de tout ça, on reçoit le Dr Mark Stebbin, qui est co-organisateur du congrès. Et je vous souligne que Mark Stebbin est un médecin généraliste spécialisé dans la santé sexuelle et la santé publique, qui se consacre à la mise en œuvre et à la promotion des pratiques multidisciplinaires les plus efficaces et les plus innovantes au monde dans le domaine des ITSS. J'espère que je vous ai bien présenté, Dr Stebbin.
Oui, c'était long.
Allons-fait. Ben oui, mais il faut quand même dire qui vous êtes, hein, parce que vous n'êtes pas n'importe qui pour parler de tout ça. Justement, à ce congrès, on parle de plusieurs avancées dans le traitement des infections transmissibles sexuellement ou par le sang, et on parle aussi du VIH. Commençons justement par ces autodépistages d'ITSS.
Donc, ici, on voit là, l'explosion technologique, la micro-section, on pourrait dire. Maintenant, on a des tests qui ressemblent aux tests de grossesse ou aux tests COVID que les gens font à domicile sans aucun problème. Donc, on a maintenant des tests pour la gonorrhée, la chlamydia, et puis on peut les faire avec surtout les urines, avec des résultats qui sont maintenant vraiment excellents. Auparavant, il y en avait des tests, mais le taux d'erreur était beaucoup trop élevé. Des gens se disaient qu'ils avaient la gonorrhée, la chlamydia, mais ils ne l'avaient pas. Et il y avait des gens qui avaient la maladie très évidente, puis le test ne le disait pas. Wow. Aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus précis, justement, avec toutes les découvertes qu'on a faites avec le développement des tests VIH et des tests COVID.
Est-ce que ces tests-là sont disponibles maintenant au Canada? Parce que je sais que la COVID, il y en a, mais il y a aussi les tests VIH là, qui sont disponibles. Est-ce que les autres le sont aussi?
Actuellement, non. Le Canada souffre d'un petit problème. Donc, l'accréditation par Santé Canada coûte assez cher, prend du temps. Et souvent, les compagnies ne voient pas un marché assez important par rapport au reste du monde. Fait que donc, un petit problème. Mais par contre, on voit les stratégies de déploiement, par contre, où on va pouvoir les prendre à la pharmacie, où on pourra les commander par l'Internet. On va pouvoir même rencontrer par Internet un questionnaire qui nous pose des questions sur nos facteurs de risque et qui nous suggère de faire tel dépistage. On peut, à Amsterdam, on peut les imprimer. On nous dit où sont les laboratoires les plus proches de chez nous. Fait qu'on voit plein de modèles où est-ce que les gens ont un accès beaucoup plus rapide au dépistage. Mais on sait qu'actuellement, le problème d'accès à une ressource de médecine préventive est très difficile. C'est pas juste le Québec, c'est pas mal partout dans les pays riches. La COVID est venue pas mal détruire le fonctionnement des systèmes. Il y a les coupures aussi qui sont non négligeables. L'économie se réajuste. Beaucoup de pays ont mis les dépenses sur le neutre avec toute la question des tarifs qui étaient pour être imposés par les États-Unis, mais on voit des stratégies qui sont de plus en plus économiques et on voit aussi l'engagement des communautés. L'OMS dit « faites faire les choses par les personnes qui sont les plus habilitées, qui sont les plus fréquentes et les moins payées ». Donc, on est capable d'avoir encore plus de ressources. Ça fait plein de choses par rapport au dépistage, l'augmentation du dépistage, puis entre autres, l'accès des tests par la communauté ou à la maison permettrait de dégager des rendez-vous pour l'accès à des médecins.
Oui, ça réglerait beaucoup de problèmes, hein, parce que là aussi, c'est le nerf de la guerre d'avoir accès à un médecin de famille, ce qui n'est pas facile au Québec et pas mal nulle part ailleurs au Canada où on est diffusé. Il y a déjà, quand vous parlez de l'accès communautaire, celui que je connais, c'est celui pour les tests VIH. Ils sont disponibles présentement par l'entremise de certains organismes communautaires, du moins à Montréal.
Oui, effectivement, c'est vrai. Mais là, justement, là, avant de vous parler, je distribuais les billets de métro, là, ils vont avoir une visite qui va être faite chez Réseau. Donc, dans le milieu du village gay, on va montrer le déploiement des ressources communautaires pour donner les conseils et avoir accès au dépistage. Les gens sont très intéressés. Il y a beaucoup de pays, ça se fait pas. Puis là, le modèle de Montréal, là, avec Réseau, on a 20 personnes qui y vont, là, puis je pense qu'il faudrait le faire quatre fois, là, cette là, on voit tellement qu'il y a des gens. On a limité, j'ai été acheter des billets de métro moi-même, je les ai donnés à la personne de réseau qui va les donner un par un, puis lorsqu'on va donner les 20 billets, on s'en va, on se dépêche, puis on s'en va voir réseau.
Oui, ils ont une clinique présentement pendant la piétonnisation de la rue Sainte-Catherine-Est à Montréal. Oui. Ils ont une clinique là, qui s'appelle, si je ne me trompe pas, quelque chose rose. Là, en tout cas, on reviendra.
Ben, il y a le cône rose.
Le cône rose, voilà ce que je
dis. Le cône emblématique de Montréal. Il est rose, puis on le voit de très loin, oui. Le cône. Puis lorsqu'on sort des deux stations de métro qui sont à l'est et à l'ouest du projet, il y a une belle... peinture, là, les gens suivent, c'est comme les couleurs là, du drapeau LGBTQ. C'est facile, on suit puis on arrive à la clinique.
Alors pourquoi c'est important ce dépistage et l'autodépistage? Qu'est-ce que ça pourrait changer en fait au traitement des ITSS?
Je pense qu'il faut se rendre compte que la consommation des soins et des services a beaucoup changé. On a maintenant des générations qui sont nées, qui veulent le « just in time ». Je veux aujourd'hui voir un médecin, je suis prêt à payer. Je veux avoir un dépistage aujourd'hui. Je n'ai pas le temps demain, je n'ai pas le temps de prendre un rendez-vous avec mon médecin, tout ça. Donc, il faut voir à augmenter l'accès selon les modes de consommation des gens qui sont les plus impliqués. Puis on sait que les jeunes aujourd'hui, avec les cellulaires, ils font tout avec les cellulaires. Fait que là, actuellement, il y a, entre autres, on a vu des démonstrations spectaculaires, des bots et des programmes AI où maintenant, comme en Inde, on va être capable de faire des photos de son pénis quand un bobo, puis le robot va nous diagnostiquer, puis va pouvoir nous dire où aller pour avoir les soins. C'est le déploiement de ça est extraordinaire, puis surtout dans les pays en voie de développement, l'Inde n'avait pas les moyens d'avoir des conseillers pour 1,4 milliard d'habitants, mais les bots vont faire la job. Puis à la fin, si tu as besoin d'aide, tu pèses des pitons, tu vas parler à quelqu'un demain.
Wow. Mais je veux dire, de dépister les maladies comme ça, pourquoi c'est important et en quoi ça améliore le traitement au bout du compte?
Le problème, c'est que beaucoup de ces maladies-là n'ont absolument pas de signes de symptômes jusqu'à temps qu'on l'ait donné à quelqu'un, un partenaire sexuel ou son enfant pendant la grossesse. Et aussi, on peut à ce moment-là développer les complications puis être diagnostiqué parce qu'on a des complications d'une maladie qui se traite très bien avant d'avoir les complications. Mais les complications, souvent, sont pour la vie par après.
Oui. Et ça coûte toujours plus cher au système de santé au bout du compte quand on arrive avec des complications.
Exactement.
Ouais. C'est ça qui est le problème. Je pense qu'il y a des politiciens qui ne comprennent pas que parfois, d'agir en amont, ça coûte moins cher que d'agir en aval, mais on est encore là. Hein.
Oui, je ne répondrai pas à cette question.
Non, c'est juste que c'est souvent la dure réalité hein, qu'on se rend compte que... on va parler plus tard d'accès aux soins de santé. Il y a des gens qui abandonnent, puis ça finit par coûter cher au système de santé. Mais on n'est pas là-dessus. Je vous amène à parler de la prévention. Il y a ce qu'on appelle la PrEP dans le cas du VIH. C'est rendu où? La PrEP, ça veut dire c'est quoi d'abord? Là?
Les PrEP. Donc, aujourd'hui, on sait qu'à prendre une pilule de tous les jours, si on a un horaire de relation sexuelle qui est un peu imprévisible, ça nous protège à 100%. Si on a un horaire sexuel prévisible, on peut faire la prophylaxie pré-exposition lors des événements. Mm-hmm. Et au cas où qu'un condom brise, glisse, ou on n'était pas en mesure d'en mettre un, puis on a oublié d'en mettre un, puis on se réveille le lendemain matin, mais on peut aller pour ce qui s'appelle la prophylaxie post-exposition, qui est très efficace jusqu'à 72 heures. Il y a aussi de prendre deux comprimés d'antibiotiques pour prévenir la syphilis, la gonorrhée et la chlamydia.
Ce qu'on appelle la doxypep, là, oui.
La doxypep, ça marche très bien. L'OMS vient de sanctionner, effectivement. Là, l'OMS le recommande. Ça coûte très peu cher. Puis, ça sauve beaucoup de... Ça diminue le lot de personnes qui peuvent être infectées dans la communauté. Plus qu'il y a des gens qui sont infectés dans la communauté qui ne savent pas, plus qu'il va y avoir de transmission.
Alors, encore une fois, c'est sûr que le dépistage va de pair avec les stratégies de prévention comme la PrEP, comme les PrEP et même la PEP. On sait qu'il y a une nouvelle PrEP qui s'en vient par injection?
Oui. Là, maintenant, c'est les injectables, les longues actions. Donc, on a un médicament qui se donne aux 2 mois, il y a un autre médicament qui se donne aux 6 mois. Et actuellement, on vise, d'ici peut-être un an et demi, d'avoir 3 compagnies qui ont des injectables qui vont pouvoir aller jusqu'à 1 an.
Wow.
Et on a considéré que plus long qu'un an, c'était peut-être pas souhaitable parce qu'on veut que ces gens-là soient vus, examinés, puis qu'on les questionne, puis tout ça, parce que quand même, il pourrait y avoir pour certaines personnes des effets secondaires à long terme. Il pourrait y avoir des échecs. Pour l'instant, on n'en a pas, mais ça pourrait arriver. Donc, on recommande après peut-être d'aller développer, mais pas plus long d'un an à la fois. Mais les résultats sont spectaculaires. Là. C'est 100% si les gens là, adhèrent au protocole.
Mais je vais quand même revenir sur une autre problématique. À Montréal, on avait noté que ça avait, le nombre de cas de VIH, de nouveaux cas, avait triplé entre 2021 et 2022. C'est des dernières données que j'ai pu trouver. C'est de quoi s'inquiéter? Comment on explique ça?
Il y a plusieurs phénomènes. Le premier phénomène, c'est un peu d'avoir les jeunes générations qui n'ont pas eu d'amis, qui n'ont pas eu de parents qui sont décédés du VIH. Il y a une certaine banalisation. Tu sais, tu prends une pilule par jour, puis c'est tout. Donc, il y a aussi des gens qui ne connaissent pas la PrEP, qui ne connaissent pas la PEP. Donc, il y a beaucoup de raisons. Puis, lorsqu'on avait vu là, qu'on avait l'arrêt de la distribution des autotests gratuits, on était un peu comme paniqués. Là. Les gouvernements ont décidé là, de reconduire les programmes. Moi, je pense que le problème, c'est souvent l'éducation des gens. Puis souvent, l'éducation qui est faite avec des dépliants qui sont faits par des ministères, des fois, sont tellement complexes à lire et à comprendre. C'est pour ça que pour nous, c'était très important d'inviter les communautés. Oui. On a un nombre incroyable de personnes des communautés comparé aux autres meetings auparavant où on les acceptaient, mais on les invitait pas formellement.
Je vous interromps parce que j'aimerais, il nous reste une minute, puis j'aimerais qu'on parle aussi du grand défi 2025, le financement.
Oui, le financement, donc il faut apprendre à être le plus efficace possible, il faut créer des synergies, il faut faire des systèmes résilients qui ne bougeront pas. On sait, on va avoir des problèmes économiques, on va avoir des problèmes politiques, on va avoir des problèmes des guerres un peu partout dans le monde. C'est incroyable, là, qu'est-ce que ça amène comme défi au niveau de la santé sexuelle, au niveau de l'avortement en plus. Mais ces systèmes-là, il faut la créer aussi avec beaucoup de monde. De se fier seulement à un pays, un peu pour contrôler. Tout le monde était un peu complaisant.
Avec les États-Unis, oui.
On se prédit, dicte très bien. Les gens qui faisaient ça, c'était des excellentes personnes. Mais le président du Nigeria a dit, c'est bien ce que Trump a fait. On va être obligé de s'occuper de nos femmes. On va s'occuper de nos hommes. On va s'occuper de nos adolescents avec nos ressources. On va s'occuper vraiment, on ne se fera pas dicter par des gens de l'extérieur qu'est-ce qu'il faut faire avec nos personnes.
Docteur Semel, je vais vous arrêter ici, mais c'est clair qu'on va s'occuper de notre santé avec vos bons conseils. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci, au plaisir. Bye-bye.
Et nous, on se retrouve après la pause.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Sentiments, faut qu'on parle gentiment. Et sentiments, faut qu'on parle sentiments. Ah, et compliments, tu donnes des frissons comme le piment. Tu viens de quel continent? Faut que je fasse mes documents. Tu me fais des coulisses en mer. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Les villas, les bolidas, vivre à Santa Monica. Un mec qui joue de la guitare. Tu veux Napoli, Margarita. Tu veux qu'on passe la noche sous les étoiles. T'aimes trop faire ta loquita. Et le soir tu danses comme Anita. Tu me fais des coulisses en mer. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Mesdames, olé, yo, mesdames, olé.
mamacita, pourquoi t'as fait ça? Oh mamacita, pourquoi t'es comme ça? Oh mamacita, pourquoi t'as fait ça? Oh mamacita, pourquoi t'es comme ça? Men amore, yo men amore, la vie d'Elmosa t'era. Mamma, toi contre moi, mamma, moi contre toi, mamma, jusqu'à Rio. Oh, men amore, yo men amore, la vie d'Elmosa t'era. Mamma, toi contre moi, mamma, moi contre toi, mamma, jusqu'à Rio.
On écoutait Ritza et sa chanson « Mais namoré ».
Et puis, les négociations avec Washington sont dans une phase intense, soutient le premier ministre du Canada, Mark Carney. En fait, des négociations avec les États-Unis là, pour un accord commercial, pour éviter cette nouvelle menace de sanctions commerciales contre le Canada par le président états-unien Donald Trump. Bien, c'est ça qui se fait présentement. La fameuse date limite, c'est le 1er août, donc vendredi. Pour discuter de tout ça, évidemment, le professeur d'économie à l'Université de Montréal, Michel Poitvin. Bonjour, Michel.
Bonjour, M. Chabot.
Alors, le Canada tente de négocier un nouvel accord avec les États-Unis. On en est où, là, présentement?
On n'a malheureusement pas beaucoup d'informations. Le président Trump a dit qu'il n'y avait pas beaucoup de chance avec le Canada, là, donc il semblait laisser entendre que ça n'allait pas à son goût. Puis en même temps, comme vous l'avez dit, M. Carney dit que on est dans une période intense, et puis il dit qu'il faut faire attention à ce que dit M. Trump. Là, ça doit être compris dans un contexte de négociation. Donc, on va attendre de voir ce qui va se passer. Effectivement, s'il n'y a pas d'entente, les États-Unis ont menacé d'imposer des tarifs de 35 % à partir de vendredi prochain, le 1er août, tous les produits qui ne sont pas couverts par l'accord de libre-échange Canada-États-Unis, ce qui n'est pas tant que ça.
Oui, c'est ça.
35 % c'est un gros chiffre, mais ouais. Beaucoup de les échanges commerciaux entre les deux pays sont couverts par l'accord de libre-échange. Donc, la menace, il y a une menace qui est là, mais peut-être pas aussi sérieuse que ce à quoi on pourrait penser.
Ouais.
Ce qui se passe du côté américain, sûrement que la gestion de l'offre est dans le collimateur. Là, c'est un irritant pour les États-Unis depuis, pas juste depuis que M. Trump est là, depuis plusieurs années, différents négociateurs ou différents accords, la gestion de l'offre revient toujours sur la table pour le lait, le poulet et les œufs. On en a parlé un peu la semaine dernière. Puis du côté canadien, certainement qu'on aimerait réduire les tarifs sur l'acier et l'aluminium qui sont en ce moment à 50 %. Pas juste pour le Canada, faut dire en passant, mais pour la planète, les Américains tarifs à l'ordre de 50 % toute importation d'acier et aluminium sur leur territoire.
Tout ça survient donc dans un contexte où il y a eu une entente avec l'Union européenne qu'on vient d'annoncer.
Mais oui, on vient juste. Ça a été scellé dimanche, quoique il faut attendre les textes finaux, mais il semble avoir une espèce d'entente de principe entre la Commission européenne, via Ursula von der Leyen et Donald Trump. L'accord va prévoir une taxe de 15 % sur tous les produits européens exportés aux États-Unis. On peut dire, ça peut être surprenant qu'un accord de libre-échange spécifie des tarifs de 15 %. Effectivement, c'est beaucoup plus que le taux en vigueur. On estimait que le taux moyen sur les exportations européennes vers les États-Unis avant l'arrivée de M. Trump était de 4,8 %. Donc là, on serait à 15. Mais ce 15 %-là, c'est beaucoup moins que ce que le président menaçait d'imposer. Donc, un 30 % à partir du 1er août. Et en contrepartie, l'Europe, elle, menaçait de taxer à hauteur de 93 milliards d'euros des importations américaines sur son territoire. Donc, il y avait une guerre commerciale qui pendait au bout du nez. Puis, on a pondu cet accord où toute exportation européenne serait tarifée à l'ordre de 15 %. En plus de ces droits de douane, l'Union européenne s'est engagée à acheter de l'énergie à hauteur de 750 milliards je pense que c'est d'ici 2030, si je me souviens bien, et puis de faire 600 milliards d'investissements supplémentaires aux États-Unis. L'Europe dit que la plupart de ces 600 milliards, ça avait déjà été annoncé. Bon, tout le monde essaye de sauver la face. On ne saura jamais ce qu'il y en est exactement. Mais l'accord a été critiqué par certains. Est-ce que l'Union européenne aurait pu avoir mieux? Du côté de l'Union européenne, on se défend. On dit que il y avait cette menace là, de 30 % le 1er août, puis dans les circonstances, c'est mieux que ce qu'on... On ne pouvait pas avoir mieux que ce qu'on a, on a négocié. Puis ce qu'on se rend compte, ce que ça révèle, en fait, c'est que le marché américain était très prisé de tous les producteurs, tous les pays, partout. Là, c'est, l'économie américaine, c'est la plus grande et la plus riche économie au monde. Tout le monde veut y faire affaire. Puis M. Trump, lui, se sert de ça pour essayer d'imposer le plus possible à ses partenaires. Puis peut-être, je pourrais mentionner aussi que la Chine est également en négociation, une négociation intense avec la Chine à Stockholm, si je ne m'abuse, pour essayer de parvenir à un accord. J'ai l'impression que la Chine a un plus gros pouvoir de négociation que l'Europe. Ça peut sembler paradoxal.
Ah,
l'Europe,
oui.
C'est quand même économiquement un continent important, mais je pense que les États-Unis ont peut-être plus besoin de la Chine, notamment des métaux rares, ou les terres rares là, que la Chine contrôle à l'échelle mondiale. Donc, alors,
puis il y a aussi, moi j'ajouterais que tous les Walmart, les Costco, les entreprises, oui. les grandes chaînes qui achètent à peu près tous leurs produits de Chine pour vendre à rabais aux consommateurs états-uniens. Le problème, c'est quand on augmente les tarifs, ça va finir par être transmis aux consommateurs. Ça, c'est peut-être pas une bonne chose à long terme.
Bien, c'est ça. La Chine, il y en a qui disent que c'est l'usine de la planète. Bon, c'est un peu exagéré, mais quand même, il y a une grosse part de l'industrie manufacturière mondiale. Puis effectivement, leurs prix sont imbattables. Alors, comme vous dites, là, tous les magasins, les grandes surfaces à rabais, comme les Costco, Walmart, ils vivent avec ça. Là. Donc, ils offrent des bons prix, puis c'est en grande partie grâce à une production qui est pas chère en Chine. Donc, ça affecte tous les consommateurs. Donc, je pense que c'est dans l'intérêt des Américains de négocier un accord de libre-échange avec eux. Parce qu'on a vu dans la dernière année le dirigeant chinois, Xi Jinping, n'est pas... Il se laisse pas faire, là. Je pense qu'il a répondu du tac au tac à chaque fois que les Américains ont fait quelque chose. Donc, je pense que du côté américain, on est plus prudent avec la Chine peut-être qu'avec d'autres partenaires commerciaux.
Bon, alors, cela dit, revenons au Canada. Nous, on a l'air de quoi dans tout ça?
Bien, ça va être à suivre. On est une petite économie, là. On n'est pas, pour les Américains, on n'est pas gros, là. On n'est pas, ils échangent beaucoup avec le Canada, mais on n'a pas le marché européen ou le marché chinois. Mais en même temps, on est un partenaire naturel, ne serait-ce que par notre situation géographique. Je pense que c'est dans l'intérêt des Américains de faire une entente avec nous, mais j'ai l'impression que eux croient qu'ils ont le gros bout du bâton. Et puis l'entente avec l'Union européenne, là, que certains critiquent, là, le mieux qu'ils ont pu faire, ce sont des tarifs de 15 %. Je pense que ça laisse présager que le Canada ne pourra pas décrocher la lune, là, ouais. Si jamais il y a une entente d'ici le 1er août. Ce qui n'a pas l'air d'être certain, là, on verra, là, mais il y a peu d'informations qui transpirent. Mais à date, on n'a pas l'impression que les déclarations... souligne de l'optimisme de part et d'autre.
Cela dit,
dans une entente, là, c'est oui. Le 1er août.
C'était peut-être pas prévu, mais juste pour voir un peu, là, il semble bien quand même que jusqu'à maintenant, parce qu'il y a quand même eu des tarifs d'imposés, il y a quand même eu des changements économiques, mais semble-t-il, je pense à General Motors, en tout cas, semble-t-il que ça n'a pas eu encore d'impact sur les économies respectives du Canada et des États-Unis?
Effectivement, on a l'impression qu'il y a plusieurs grandes compagnies qui ont décidé d'absorber les tarifs puis en refiler juste un petit peu, là, peut-être une petite partie aux consommateurs, mais pas autant que ce à quoi on aurait pu s'attendre. Peut-être que c'est un effet court terme. Si les compagnies disent, bien là, on pense que finalement, ces tarifs-là, ils ne seront pas vraiment mis en place pour très longtemps, on va prendre nos pertes et puis... Puis après ça, quand les tarifs vont disparaître, bien, on va être correct. Mais si les tarifs sont maintenus à long terme, j'ai l'impression que le consommateur va avoir une plus grande partie à lui être refilée.
Oui, tout à fait. Puis on disait aussi qu'avant, avec l'annonce des tarifs, beaucoup d'acheteurs aux États-Unis se sont précipités là, pour faire des stockages là, des biens dont ils ont besoin. Mais éventuellement...
On a vu des hausses importantes ou soudaines dans les importations ou exportations juste après l'annonce, mais avant la mise en vigueur des premières vagues de tarifs, justement, on augmente les inventaires puis on essaie de se prémunir. Mais ça a un effet court terme.
Ben oui. Alors, cela dit, demain, les grandes banques centrales vont annoncer des décisions importantes.
Oui, ça va être intéressant à suivre. Il y a la Banque du Canada qui doit annoncer son taux directeur. On s'attend là pour une troisième décision consécutive à ce que le taux demeure inchangé à 2,75. Le marché du travail, pourquoi? Il y a un paquet d'incertitudes. D'une part, on a les tarifs qui pourraient générer de l'inflation. Puis qui dit inflation, on dit mais on veut augmenter un peu les taux d'intérêt pour pas que l'inflation parte en vrille. Mais en même temps, les tarifs peuvent réduire l'activité économique au Canada. Puis là, on se dit bien, peut-être qu'il faudrait baisser les taux d'intérêt pour stimuler l'activité économique. Mmh. Alors, c'est pas une période facile pour la Banque centrale du Canada. Mais le marché du travail semble bien tenir. Là, on a eu les dernières annonces du taux de chômage. On a eu une légère baisse, là, pas une grosse baisse, mais une légère baisse. Le taux de chômage se situe un peu en dessous de 7. Alors, il n'est pas faible, mais il a l'air de se maintenir, même baisser un petit peu. L'inflation est en légère hausse à 1,9 là, au dernier chiffre, mais en même temps, c'est sous la barre des 2 qui est la cible de la Banque du Canada. Alors, tout ça fait dire, la plupart des experts s'entendent pour dire bien, probablement là, que ça va être un peu on attend puis on voit ce qui se passe, là, donc maintenir les taux à 2,75.
Et puis, aux États-Unis, de leur côté?
Du côté américain, ça va être très intéressant pour différentes raisons. L'économie va bien, puis l'inflation est relativement élevée. Là. Bon, certains indices, là, peut-être pas l'indice global, mais certains indices sont autour de 3, ce qui est en haut de la cible également de 2 aux États-Unis. Donc, j'ai l'impression que si on se fie seulement aux considérations monétaires puis d'inflation, on devrait garder le taux d'intérêt entre 4,25 et 4,50 comme il est en ce moment. Par contre, on sait que M. Powell fait face à des pressions politiques qui sont à peine voilées. Là,
oui, Powell qui est le directeur de la
oui,
Fed,
oui. Excusez-moi, oui, le gouverneur de la Banque centrale américaine, de la Réserve fédérale. Puis il y a des pressions politiques qui sont quand même assez explicites de la part de Trump puis de son équipe pour baisser les taux. Bon, le président Trump, il voudrait que les taux d'intérêt baissent pour favoriser les consommateurs. Il y a peut-être en vue les élections de mi-mandat là, qui seraient à l'automne 26. Donc, il voudrait qu'il y ait des répercussions sur l'économie, mais le risque, c'est que si on baisse les taux d'intérêt trop vite, c'est que l'inflation augmente beaucoup. Puis M. Powell, son rôle, lui, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas d'inflation ou très peu d'inflation aux États-Unis. Donc, je n'ai pas l'impression qu'il va céder aux menaces politiques de Trump. Là, on sait que c'est pas deux personnes qui s'apprécient tant que ça de ce temps-là, mais en même temps, on peut rappeler que Powell avait été nommé par le président Trump pendant son premier mandat, et peut-être la relation entre les deux s'est détériorée depuis.
On a l'impression que les amitiés qu'entretient Donald Trump ne durent pas très longtemps, hein, parce que je pense aussi à son acolyte Elon Musk récemment, ça n'a pas duré longtemps non plus cette bromance-là.
C'est ça, elles sont volatiles comme ces tarifs.
D'accord. À Michel Poitvin, merci beaucoup, on se reparle la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, au revoir.
Au revoir.
Je me demande si demain tu m'écouteras encore, si je redeviendrai une inconnue, si je partirai comme je suis venue, c'est fort. fait cette chanson. Je sais pas, j'hésite. Je pense à tout ça. Je me dis oh là, où ça ira. Je pense à tous ceux qui m'aiment pour deux, qui me font des cœurs avec leurs doigts. Je dors plus la nuit. Ça me fait tourner.
C'était la chanson d'Elena Mélatonine.
Un article ce matin à Radio-Canada.ca, le renoncement aux soins, la face cachée du système de santé. L'expression « renoncement aux soins » est utilisée lorsque des personnes sont conscientes qu'elles ont besoin d'être soignées, mais que pour différentes raisons, elles ne poursuivent pas leur démarche. C'est généralement lié à des difficultés d'accès au réseau de santé. Course à pied, randonnée, ski de fond, vélo, Isabelle Bourgeois était une grande sportive jusqu'à sa blessure en février 2024, alors qu'elle jouait au volleyball, son sport favori, son genou a lâché. Quelques semaines plus tard, le diagnostic est tombé, déchirure du ligament croisé antérieur. Elle a alors cessé toute activité sportive en attendant une possible chirurgie. Depuis l'automne, elle suit le parcours du combattant pour obtenir la moindre information concernant l'état d'avancement de son dossier. La maison des fous, comme dans Astérix, déplore-t-elle alors qu'elle vient de recevoir un nouveau coup de massue. Isabelle Bourgeois vient d'apprendre que son opération n'aura probablement pas lieu avant un an. Dans le réseau public, son cas est jugé non urgent et il pourrait encore être mis de côté à plusieurs reprises. Depuis sa blessure, sa santé physique et mentale se détériore. Elle est notamment en arrêt de travail pour troubles dépressifs à cause d'une chute majeure d'endorphine, un classique chez les sportifs au repos forcé. Pour ne pas sombrer, cette mère de deux enfants a envisagé de se tourner vers le secteur privé, mais elle a été refroidie par le prix entre 12 et 20 000 $, une dépense qu'elle ne peut pas se permettre dans l'immédiat. Alors, devant cette impasse, elle songe maintenant à renoncer à une opération, même si cela signifierait d'abandonner ses activités sportives, un deuil difficile à envisager, confie-t-elle, surtout quand il y a un léger espoir d'obtenir une chirurgie. C'est très commun. C'est la docteure Isabelle Leblanc qui travaille au groupe de médecine de famille universitaire Sainte-Mary's à Montréal qui dit ça. Elle voit souvent des patients, comme Isabelle Bourgeois, qui n'ont pas reçu les soins prescrits. Plusieurs fois par semaine, c'est très commun et selon son expérience, l'aspect financier est le principal obstacle. Mes patients ont souvent besoin de psychologues ou de physiothérapeutes, ce qui n'est pas couvert par les assurances souvent et ils renoncent donc à des soins dont ils ont vraiment besoin. Isabelle Leblanc constate que le phénomène épargne relativement les personnes couvertes par des assurances privées. Par les autres, et par exemple les patients qui n'ont pas de médecin de famille, c'est presque impossible d'avoir un premier rendez-vous pour évaluer un problème de santé. Le phénomène est étudié et pris au sérieux en Europe, mais depuis des années là-bas. Ici, les données sont quasiment inexistantes. Dans un sondage de la firme Léger réalisé au Québec l'automne dernier, 43 % des répondants affirmaient toutefois s'être privés de soins dans la dernière année à cause des difficultés d'accès au réseau. La porte-parole de la ministre du ministère de la Santé, Marie-Christine Patry, affirme dans un courriel que le M3S est conscient que des patients ne réussissent pas à consulter en temps opportun, mais donc elle soutient que les efforts se poursuivent pour améliorer l'accès, citant entre autres la création de guichets d'accès en première ligne, des mesures pour augmenter les inscriptions à un médecin de famille ou l'augmentation de 40 % des étudiants en médecine. Alors, selon des calculs, 3,2 millions de patients se sont présentés aux urgences en 2023-2024 au Québec. 11,5 % sont repartis avant une prise en charge médicale, un chiffre en augmentation par rapport à 2018-2019. À cette époque, c'était 10 % des patients. On s'en va en musique.
Un peu comme on lance un ballon sonde. T'envoies des nouvelles de l'autre monde. Rien ne fit si tout va pour le mal. Ça frôle la guerre mondiale. La planète est à Dieu et à craindre. Et comme les gens seront toujours les gens, ce qui se rapproche le plus de l'infini, ça reste l'humanité. Tout est plus triste depuis que tu es parti, mon ami. Tout est plus triste depuis que tu es parti, mon ami. Oh! Un peu comme on lance un ballon sonde. Je t'envoie des nouvelles de l'autre monde. Ici, on se nourrit de mirages en guise de bons présages. Changer chacun dans sa niche. Les pauvres seront pauvres et les riches seront riches. Les créateurs de contenants stupides nous scellent l'âme sous vide. Sinon tout va très bien pour la haine. Qu'est-ce que tu veux, l'horreur est humaine. Comme on dit, ça prend beaucoup. Tout est plus triste depuis que tu es parti, mon ami. Tout est plus triste depuis. Tellement plus triste depuis. Tout est plus triste depuis que tu es parti, mon ami. Oh!
Et c'était JF Posé, Ballon Sonde.
Mais un petit retour à la météo. Notre ami, j'aime ça l'appeler Dex, son nom complet, Humidex. Il est avec nous encore, je pense, pour quelques jours, hein, jusqu'à demain. Donc, si vous habitez au Québec, en Outaouais, province maritime, vous le savez, ça va être chaud et humide. On parle de ressenti jusqu'à 36 dans le sud du Québec, ailleurs autour de 26-28. Seul endroit dans la province où ça va peut-être être un petit peu différent, c'est en Abitibi, où il y a de la pluie cet après-midi, dans les provinces maritimes aussi, mais ça va rester humide. Terre-Neuve-Labrador, c'est nuageux et plus frais. Hein, c'est peut-être un des rares endroits au pays. C'est la même chose en Ontario, des ressentis autour de 35, de la fumée à Thunder Bay, puis peut-être de la pluie en fin d'après-midi à Sudbury. Chaud et humide en Colombie-Britannique, 29 à 31, avec peut-être des précipitations à l'intérieur des terres. Même scénario en Alberta, Saskatchewan ou Manitoba, avec de la fumée là-bas, par contre, feu de forêt dans l'ouest, hein, 23 à 26. Chronique livre après la pause, puis on va parler aussi de contrôle d'espèces exotiques envahissantes sur le Mont-Royal. À tout de suite.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
On a une dernière demi-heure assez chargée, ça fait qu'on va tout de suite aller à notre chronique littéraire avec Anne-Marie Aubin. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour.
Alors, on va parler de quelques suggestions. En fait, hein, le thème aujourd'hui, c'est le 12 août. Ça s'en vient. J'achète un livre québécois dans deux semaines. 12e année d'existence, puis ça a vraiment, on pourra en discuter, mais ça a vraiment un impact important sur les ventes de livres au Québec, notamment des livres québécois. Donc, quelques suggestions pour divers publics.
Oui, parce que en fait, au départ, c'est deux auteurs qui ont lancé l'idée comme ça. Ça fait boule de neige et on dit chez les libraires que c'est le Noël d'été. Il y a une foule qui se rend là. Et pour des parents qui veulent acheter quelque chose aux enfants, très souvent, j'entendais des parents qui me disaient « Mais mon fils n'est pas très lecteur, il est plus sur sa tablette » ou « Oh, ma fille est plus sportive ». Alors, j'ai choisi trois livres qui, à mon avis, pourrait être déclencheur de plaisir de lecture chez différents lecteurs. Alors, le premier, ça s'intitule « Le mangeur d'ombre » de Caroline Méroula à la courte échelle. C'est un livre de 109 pages abondamment illustré et c'est dans la collection noire, enquête, horreur. Et à l'endos, c'est écrit « Interdit » ou « Peureux ». Donc déjà, en partant, c'est attrayant. Il y a un gros cercle rouge avec un titre, Le mangeur d'ombre. Déjà, c'est pas mal. Ouais. Et quand on ouvre le livre, sur le rabat de chaque côté, à la fin du livre et au début du livre, il y a une forme dessinée en carton qui ressemble au monstre qu'on voit sur la page couverture. Et on nous dit, tente l'expérience avec une lampe dans le noir de ta chambre. Tu mets ça, puis tu fais des ombres sur le mur. Donc, déjà, il y a un jeu. Il y a du suspense, du mystère. Et Caroline Méroula dessine très bien. Et puis, elle a de plus en plus de titres à son actif. Elle a plus de 50 titres, Caroline. Elle a d'abord été illustratrice longtemps. Et depuis quelques années, elle écrit. Alors, de quoi parle ce titre? De magie, d'hypnose et de mystère. Alors, dans un village, il y a deux filles, Sophia qui a 13 ans et sa petite sœur Aurore, s'en vont à un spectacle sous le chapiteau où on promet, bon, jongleur, chanteur, etc. Et il y a un magicien qui s'appelle Vassili Rodovan qui, lui, ben, va faire une expérience. Il demande le silence et il dit, je cite, « Dans cette boîte vit une créature venue du fond des âges que j'ai réussi à dompter. C'est le mangeur d'ombre. » Alors là, ben, il demande une volontaire. La petite Aurore se lance sur la scène et elle devient hypnotisée. De la boîte, quand il l'ouvre, sort une espèce de foulard noir, mais qui devient comme un personnage et qui capte son ombre qui va disparaître parce que là, on met l'éclairage sur elle et l'ombre disparaît. C'est quand même mystérieux. Quand le spectacle est fini, elle s'en va avec sa petite sœur qui est complètement mystifiée par cette hypnose et puis elle va faire des cauchemars. Et bref, ils vont essayer de comprendre qu'est-ce qui a bien pu se passer. Puis là, j'en dis pas plus. C'est elle avec un ami qui vont aller finalement sur les lieux du spectacle, qui vont trouver des indices. Et puis bon, ben c'est un très bon livre où on s'ennuie pas. Il y a 7 chapitres et il y a de l'action à chaque chapitre. Il y a des illustrations. Je pense que le mot peur, puis le mot mystère, magie, malédiction, ça peut attirer quelqu'un qui est curieux puis qui ne va pas trop s'ennuyer dans cette lecture.
D'accord. Donc, c'était ce premier choix. Le deuxième, expérience décoiffante des petits débrouillards. Yannick Bergeron, illustration de Jacques Goldstein, et c'est aux éditions Bayard.
Oui, d'ailleurs, j'en profite pour faire une parenthèse. Cette collection était dirigée par Isabelle Vaillancourt, dont on apprenait le décès hier.
Ouais.
Cette scientifique a eu un cancer, puis est décédée à l'âge de 47 ans. C'est épouvantable de penser que si jeune. Et elle dirigeait, entre autres, les Petits Débrouillards. Elle les éditait, puis elle a créé une série qui va passer à la télé bientôt, là. Alors, ils ont travaillé avec elle, sans doute, pour ce livre-là, parce qu'ils ont dit dans le communiqué qu'elle avait travaillé, même en étant malade, à faire avancer cette collection. Alors, ça, c'est des expériences pour, je me dis, quelqu'un qui est lecteur, mais pas tant que ça, ben là, il va lire ça comme un livre de recettes, en fait. On propose 28 expériences pour des jeunes, je dirais, de 8, 10, 12 ans, à peu près. Il y en a des plus difficiles que d'autres. C'est très varié. Puis il y en a qui vont intéresser plus les filles, je pense, que les garçons et vice-versa. C'est illustré tout en couleur sur papier glacé, comme vraiment comme des instructions. Première étape avec une photo, deuxième, troisième, quatrième. Et Jacques Goldstein et sa petite grenouille des Petits Débrouillards est un peu partout dans les illustrations avec des expressions amusantes et puis stimulantes pour le lecteur. Donc ça crée quelque chose de vivant. Puis je me dis qu'ils ont quasiment pas l'impression qu'ils lisent, là, qu'ils font une expérience. Alors ça, c'est pour les scientifiques plus que les littéraires. Et les types, par exemple, c'est un trognon totipotent. Bon, ben, c'est comment prendre des trognons de légumes pour les faire pousser puis faire une plante. Il y a des expériences qui sont spectaculaires, qu'il faut faire dehors parce que ça gicle et ça tâche. Il y en a qui touchent plus la cuisine, comme par exemple comment faire des guimauves, comment faire de la crème glacée, comment faire du yogourt. Et puis, à chaque page, c'est une expérience. Il y a des photos qui sont numérotées avec des enfants qui les font, les expériences. Donc, ça devient possible. Et il y a des explications scientifiques à la fin de l'expérience qui nous disent qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait que ça se passe comme ça. Et puis, bon, ben, on précise aussi à chaque fois ce que ça prend en haut. Comme quand on fait une recette, tu dois avoir ça, 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 ça. Alors, certaines ont intérêt à se faire à l'extérieur, certaines accompagnées des parents, mais c'est intéressant, c'est varié, puis je pense que ça va permettre à l'enfant d'ouvrir un livre pour une première fois, et peut-être après de s'abonner au Petit Débrouillard, ou en tout cas à des revues scientifiques, et peut-être aller voir d'autres livres scientifiques sur le sujet, ou des livres de cuisine, enfin bref, j'essaye avec ce titre-là d'éveiller un lecteur passif, disons.
Bon, et allons-y voilà. Un troisième titre. L'étrange histoire du chevalier Gaspard, Roxane oui. Bourriard, illustration d'Ariane Cloutier, aux éditions Les 400 coups.
Là, j'essaie de les avoir avec l'humour. Il y a la peur, il y a la science, puis là, pourquoi pas avec quelque chose de tellement drôle qui vont accrocher. Alors, Roxane Bourriard, elle écrit des livres avec un humour absurde. Et ça marche. Moi, j'en ai lu déjà devant des enfants, c'est... Entre autres, mon chien banane, c'est très, très drôle. C'est un enfant qui se promène avec une banane en laisse, avec une corde. Puis tout le monde dit, voyons, non, c'est pas un chien, c'est une banane. Mais les situations sont tellement drôles, c'est tout à fait séduisant. Et puis, Ariane Cloutier, elle a fait de la BD et de l'illustration. Elle ajoute beaucoup d'humour à ce texte-là. Elle a tout illustré en, comment je dirais ça, de profil. Tous les personnages sont de profil. Ils n'ont qu'un seul œil. Et comme elle est BDiste, bien, il y a quelque chose de BD dans le livre. Et par exemple, tous les phylactères des personnages, des expressions, ajoutent au récit de l'autrice et ajoutent des notes d'humour. Alors, de quoi ça parle? C'est comme un conte de fées revisité avec un chevalier, une princesse et beaucoup, beaucoup d'humour. Ça commence où on voit un prince charmant, le roi, qui est le père de la princesse, qui déchire les lettres des princes charmants qui ont été adressées à sa fille parce que lui, il ne veut pas qu'elle se marie. Pour ça, il va l'enfermer dans une tour qui, elle, bon, la tour est gardée par une espèce de gros dragon cracheur de feu cruel. Puis ainsi, ben, personne ne va l'épouser. Heureusement arrive la fée marraine, comme dans tous les contes, qui intervient puis qui va dire au chevalier Gaspard, tu vas aller à sa rescousse, là, va la chercher dans la tour. Puis là, ben, lui, il est un peu peureux, il a le vertige. Bref, là, à partir de là, le conte va déraper. Le Gaspard se retrouve sur scène dans une salle de théâtre. Et puis là, les décors sont en carton. Et puis là, ben, il va dire à un moment donné qu'il veut pas jouer ce rôle-là, que ça y prend une doublure. Puis quand il arrive au village aussi, on lui dit, il n'y a personne parce que c'est la fête de la courge, tout le monde est parti. Et là, il se trouve face à une tour. gardé par une sorcière en haut puis un dragon en bas. Puis il est devant la porte et il va dire tire la chevillette, la bobinette sera. Puis le dragon lui dit ben non, t'es pas dans le bon compte. Alors, c'est très amusant. Partout, il y a des événements qui arrivent qui sont insensés par rapport à un récit qui serait un conte. Exemple, il y a trois vœux à faire, comme souvent dans les contes. Et là, ça aussi, c'est très, très drôle. La princesse, elle a changé d'attitude complètement quand il finit par la trouver. Et partout, dans les pages, on voit un petit chaboté qui se faufile dans les illustrations. Et ça, les jeunes vont le repérer. Ils vont l'observer parce qu'il est drôle. Et ça crée donc un lien avec le lecteur qui ne sait pas lire. Si on avait quelqu'un de 3 ans, il pourrait suivre aussi. Et c'est vaudevillesque par moment, là, vraiment, on imagine le spectacle que c'est. Je suis certaine, celui-là, je viens de le recevoir, mais je suis certaine que quand je vais le lire à des jeunes, il va faire fureur par l'humour, le dessin, l'illustration, les personnages sont comiques. Et on a une idée pas mal de comment ça se passe, un conte. Il y a une quête, il faut aller chercher la princesse, il y a des dangers, des épreuves, mais dans ça, ça va de plus en plus mal. C'est très, très drôle. Alors, un récit qui, je pense, peut plaire aux jeunes par l'humour, le dessin, le côté bande dessinée. Il n'y a pas beaucoup de texte. Et puis, ça fait appel à l'imaginaire. Fait que je pense que c'est mon troisième livre, Séduction, pour ce 12 août qui approche bientôt. Et je ne serai pas là la semaine prochaine. Donc, je voulais prendre de l'avance pour suggérer des titres jeunesse. Et à mon retour le 12, ben là, je suggérerai plus des livres adultes. Ça va donner plus de temps pour les lire aussi. Et ben, les gens sont présents au 12 août pour célébrer la 12e année de cet événement-là.
On n'y manquera pas. On est en train de perdre la communication avec toi, Anne-Marie. Ça fait qu'on n'y manquera pas. On va participer au 12 août. Puis, ben, bon repos la semaine prochaine. Puis, on se reparle dans 2 semaines.
D'accord. Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.
Papa a tingué les chiffres de l'horloge. Ils disent quelque chose qui sait déjà. À la vie, ça passe vite, même si on s'étourdit. Il y a des choses qu'on n'oublie pas. Oh, tu t'es fait mal, on a volé ton cheval. Y'a quelque chose d'injuste là-dedans. Pas besoin d'attendre que le ciel te parle pour faire la paix avec ça. Clémence a peur, le monde va pas bien. Est trop gros son cœur, trop petite ses mains. Elle se lamente un peu, puis elle demande à son chien. On va-tu comprendre quelque chose? Regarde, ça fait dur. Y'a pas grand sourire sur la mine, c'est sûr. T'as l'impression qu'on s'enligne dans un mur. On va-tu changer quelque chose? Y'a encore du monde qui pleure dans la rue. Y'a toujours quelqu'un pour te plier dessus. Si tu criais plus fort, ça changerait pas grand chose. Si tout ça, ce serait pas de ma faute. Drôle de temps pour se dire je t'aime. Drôle de temps pour se faire des flots. La forêt brûle pis ça te fait de la peine. Moi aussi j'ai les yeux dans l'eau. Une chance t'es là quand la brume m'appelle. Quand mes vieux souvenirs me glacent le dos. La nostalgie ça me lève le poil. Le futur me donne chaud. Maman se ramollit à grand gorgé de rouge. Elle avale les pires pour slacker un tour. Le monde va trop vite pis la tête me tourne. On peut-tu prendre notre temps? C'est correct maman, tu peux pleurer. C'est pas gênant vouloir abandonner. On fait ce qu'on peut puis on se retrousse le nez. Le reste c'est pas important. Y'a encore du monde qui pleure dans la vie. Y'a toujours quelqu'un pour te piler dessus. Si tu criais plus fort, ça changerait pas grand chose. Et puis moi je me demande
Gab Bouchard, drôle de temps.
Participer au contrôle d'espèces exotiques envahissantes sur le Mont-Royal et à la protection et la conservation du papillon monarque. Les Amis de la montagne, c'est un organisme à but non lucratif basé à Montréal qui a pour mission de protéger et de mettre en valeur le Mont-Royal en privilégiant l'engagement de la communauté, l'éducation à l'environnement et la représentation des intérêts de la montagne afin de favoriser la prise de décisions éclairées en appui à la pérennité du lieu. Afin de préserver donc la biodiversité du Mont-Royal, les Amis organisent des activités cet été en vue de freiner la progression d'espèces exotiques envahissantes et nuisibles, dont certaines posent également un enjeu de santé publique, parce qu'on va parler de l'herbe à poux. Je peux vous le dire que c'est un enjeu de santé publique, du moins pour ma santé à moi. Pour en parler, donc, on reçoit Benjamin Pilon, c'est le responsable des programmes d'intendance environnementale et de l'action bénévole par intérim. Bienvenue à Canalem.
Bonjour, merci.
Alors, quand on parle d'espèces nuisibles, j'en ai mentionné une, mais il y en a plusieurs. On parle de quoi?
Bien, on parle d'espèces envahissantes. Ça peut être des espèces exotiques qui ont un impact négatif sur nos écosystèmes. On peut aussi parler d'espèces pas nécessairement introduites. Donc, vous avez mentionné l'herbe à poux. Donc, c'est une espèce indigène, mais qui présente quand même des enjeux de santé publique. Donc, c'est toutes des cibles qu'on a pour essayer de les contrôler sur notre territoire.
Oui, l'herbe à poux, on dirait que les temps chauds récemment lui donnent un air d'aller parce que mon nez le sent.
Oui, on le ressent là, en ce moment. C'est ça, c'est la période de floraison. L'herbe à poux, on sait, c'est la cause principale de la rhinite là, à cette période de l'année. Le rhume des foins, on l'appelle souvent. C'est quand même impressionnant. Un plant peut répandre son pollen sur un rayon quand même incroyable. Donc, c'est une des raisons pour laquelle on travaille avec des bénévoles sur la montagne pour contrôler l'herbe à poux. On fait ça avec des groupes grand public, mais on a aussi des bénévoles qui font de façon autonome sur la montagne dans notre programme de bénévolat autonome.
D'accord. Mais il y a d'autres herbes, puis là, ça peut avoir d'autres sortes d'impact. J'ai noté dans le communiqué de presse quelques-unes. Légopode podagraire.
Oui, Légopode podagraire, c'est une plante qu'on reconnaîtrait peut-être si on la voyait. C'est une espèce ornementale, donc on plante souvent dans les jardins. La raison qu'elle est choisie, c'est qu'elle prend beaucoup d'espace rapidement. Donc, si on veut couvrir le sol rapidement, c'est souvent un choix que les gens vont faire. Malheureusement, les gens ne sont pas toujours informés des enjeux. C'est ça, c'est une plante qui va prendre beaucoup d'espace, puis ça inclut dans nos boisés. Donc, malheureusement, on a retrouvé dans plusieurs zones les gopodes podagraires. C'est une plante qui se retrouve surtout en bordure de la montagne, donc proche des résidences. C'est une plante qui va prendre l'espace. Donc, dans nos zones, on trouve presque juste ça. Il y a très peu d'espace pour nos plantes indigènes, qui incluent quand même des espèces vulnérables. On a la sanguinaire du Canada, par exemple, le treille blanc. Ce sont des espèces printanières qui ont vraiment besoin de l'accès à la lumière au printemps. Donc, l'égopode, c'est un plant qu'on contrôle à l'aide de l'arrachage. On va venir enlever toutes les parties aériennes de la plante sans nécessairement sortir le système racinaire, parce que si on était pour déplacer un petit bout de rhizome ou de racine, ben ça pourrait commencer une nouvelle colonie si on l'échappait dans une autre zone. Donc, okay. C'est une technique d'épuisement racinage qu'on fait.
Donc, oui, ça semble... C'est du travail de bras, comme on dirait. Puis, il y a deux autres plantes ou deux autres dont j'aimerais qu'on parle parce que je ne les connaissais pas. La renouée du Japon, ça se trouve ici, ça, maintenant?
Oui, il y en a moins que l'égopode, mettons, mais il y a quelques sites à proximité du cimetière Mont-Royal, entre autres. C'est aussi une espèce ornementale, donc qui forme des très beaux bosquets. On la voit souvent, en fait, à l'extérieur de Montréal, quand on conduit sur les routes, surtout en bordure de cours d'eau. Donc, c'est une plante qui va... Ça ressemble un peu à du bambou. Ça a des tiges en segments, des tiges creuses. Mais c'est aussi une plante à rhizome, donc qui va former des colonies, qui va se répandre non seulement avec les fleurs et les graines, mais aussi avec le système racinaire. Mmh. Ça fait en sorte que c'est quand même difficile à contrôler.
Donc, c'est le genre de plante qu'on achète, qu'on trouve très belle, puis oups, qui s'échappe dans l'environnement.
Exactement.
Bon. Et la dompe venait de Russie.
Oui, c'est une autre plante assez spéciale. Dans le fond, c'est une petite plante herbacée, mais qui peut quand même prendre de l'ampleur. On la voit souvent vers la fin, à cette période-ci de l'été, il va y avoir des grands bosquets. Ça a un peu un comportement de vigne, un peu. Donc, il va s'enrouler autour des arbres, s'enrouler autour des autres plants de dompe venin. Un des enjeux principaux avec cette plante, il y en a deux. Le premier, c'est que c'est une plante qui fait ce qu'on appelle l'allélopathie. Donc, c'est un mot qui veut dire que c'est une plante qui va relâcher des composés chimiques nocifs dans le sol. Ça va inhiber la croissance des plantes indigènes pour aider aux dompes venins de se répandre. Le deuxième enjeu principal, c'est que c'est une plante qui peut nuire de façon plus ou moins directe aux papillons monarques.
Ouais.
Donc c'est une plante qui est dans la même famille que l'asclépiade commune. Mm-hmm. L'asclépiade, en général, c'est l'unique plante hôte du papillon monarque. Donc, en prenant les mêmes habitats, en remplissant ses zones, le don de venin vient... ça rend la croissance de l'asclépiade plus difficile.
Avant d'aller au papillon monarque, parce que c'est important, il y a vraiment une cause environnementale autour de ça, donc on fait appel à des bénévoles pour... venir un peu nettoyer ou aider à nettoyer le parc, comment ça fonctionne?
Mais dans le fond, ça, on a vraiment besoin de l'aide de nos bénévoles, à cause que au service de la conservation, mes amis, on est environ 6-7 employés. Donc, on n'est pas une grande équipe, mais avec les centaines de bénévoles qui viennent nous aider à chaque année, on est vraiment capable d'accomplir des belles affaires dans nos zones. Donc, pour le bénévolat, ce qu'on fait, c'est que les gens peuvent s'inscrire sur notre site web, lemontroyal.qc.ca. On a une liste d'événements avec des activités qui sont ajoutées au fur et à mesure que l'été avance et en automne aussi. Et là, ensuite, c'est les samedis matin principalement, de 10 à midi, on va aller dans les zones qui ont été préalablement cartographiées, choisies en fonction de leur vulnérabilité. Alors, on va venir faire de l'arrachage et ensuite, on fait ça pendant quelques années, dépendamment de l'espèce. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va replanter des espèces indigènes. Ça, c'est important parce que sinon, des espèces envahissantes pourraient facilement revenir dans la zone. Donc, on va venir planter des herbacées indigènes, des arbustes, ainsi que des arbres, dépendamment de la zone.
OK. Donc, vous formez les gens hein, quand ils s'offrent comme bénévoles. Parce que moi, personnellement, là, j'ai entendu vos descriptions, puis j'ai une bonne image, mais je pense qu'il faut vraiment qu'on nous montre ce que c'est et comment le faire.
Oui, absolument. C'est ouvert à tout le monde. On n'a pas besoin d'être experte en biologie pour y participer. Avant chaque activité, on donne vraiment comme un genre de cours de botanique pour aider à identifier le plant. Le différencier des autres plantes. On montre aussi les techniques de contrôle qui varient selon l'espèce. À la fin de l'activité, d'habitude, ce que j'entends souvent, c'est que les gens disent « Mais là, je connais la plante, je la vois partout. » Donc, c'est un peu l'autre côté d'apprendre les espèces envahissantes, c'est quand on se promène après, on se rend compte qu'il y en a beaucoup et une grande partie de nos boisés et de nos milieux naturels sont envahis.
Et ce qui peut arriver finalement, c'est que les gens vont aussi le faire à l'extérieur du Mont-Royal et peut-être aussi contribuer à améliorer l'environnement général ici au Québec et même au Canada.
Oui, exactement. C'est une bonne façon de connecter avec notre environnement, surtout l'environnement urbain, puisque je dis souvent que les gens ont tendance à penser qu'en ville, on est dans un désert écologique. Ce n'est pas nécessairement le cas. Il y a beaucoup d'écosystèmes quand même spéciaux à l'intérieur de la ville qui ont besoin de l'aide, y compris le Mont-Royal.
Maintenant, j'aimerais qu'on parle du papillon monarque. C'est quand même très important. C'est une espèce qui est menacée. Puis, ils aiment bien venir au Québec. Et là, il faut vraiment les aider un peu.
Oui, c'est ça. Le papillon monarque, ben, je dirais que c'est le papillon le plus emblématique de l'Amérique du Nord qui a besoin d'aide. Donc, c'est un papillon qui a connu des chutes importantes là, de plus de 90% de la population au cours des dernières décennies. Comme vous avez mentionné, ils viennent au Québec, mais c'est vraiment une espèce qui parcourt le continent au complet. Donc, qui va faire une migration de jusqu'à 4000 km, je crois, jusqu'au centre du Mexique. Au Québec, les enjeux principaux, c'est ben, la perte d'habitat. On parlait de la cyclépède tantôt. C'est une espèce qui a été mal vue pendant plusieurs années, plusieurs décennies, qu'on voyait comme une mauvaise herbe, mais que maintenant, on reconnaît l'importance de la protéger pour la reproduction du papillon. Il y a aussi les pesticides, donc en agriculture, les herbicides qui vont cibler les mauvaises herbes, incluant la cyclépède. Aux États-Unis et au Mexique, il y a des enjeux similaires, aussi la déforestation. Donc, c'est une espèce qui a vraiment besoin de nous pour l'aider.
Oui, parce que c'est vraiment un papillon magnifique. Là. C'est sûr qu'on est à la radio, le décrire, c'est pas facile, mais il est vraiment magnifique, ce papillon.
Oui, donc, on le reconnaît avec les ailes oranges, vives, oui. Avec les bordures noires, avec des taches blanches. C'est un papillon fascinant, pas seulement à cause du visuel, mais aussi c'est un des rares insectes qui fait un voyage migratoire aussi long. Mm-hmm. Donc, c'est quand même un phénomène naturel qui est extrêmement important de préserver.
Oui, considérant que les papillons, hein, ça a une vie éphémère habituellement, celui-là, il semble s'en sortir pas mal longtemps quand même.
Oui, en fait, c'est un point vraiment intéressant, c'est que le cycle de vie du monarque, d'habitude, est d'environ un mois. Mm. Mais c'est une seule génération la génération qui migre à l'automne, en fait, va vivre d'habitude 6 à 8 mois.
Wow.
Ouais, donc, c'est un papillon qui fait tout le parcours de nos latitudes jusqu'au centre du Mexique. C'est vraiment incroyable.
Bon, alors, écoute, pour ceux qui veulent s'inscrire, qui veulent aider, on va où? On fait quoi? Comment?
Oui, donc c'est sur notre site web, le montréal.qc.ca. Vous avez une liste de toutes nos activités. La mission monarque de la fin de semaine prochaine, c'est le 2 août de 9h30 à midi. Les inscriptions sont quand même presque remplies. Par contre, si jamais il y en a qui veulent participer, vous pouvez également envoyer un courriel à bénévolat@commercial-le-montréal.qc.ca. On peut vous inscrire manuellement à la liste, si jamais.
Génial. Merci beaucoup, donc, Benjamin Pilon, qui est responsable des programmes d'intendance environnementale et de l'action bénévole par intérim. Merci.
Merci à vous. Bonne journée.
Eh bien, nous, on arrive à la fin de cette émission. Je vous rappelle donc que c'est encore une journée où il va faire chaud et humide presque partout au pays. Il n'y a pas d'avertissement de chaleur, mais c'est quand même désagréable quand c'est collant. Pour les personnes qui ont des problèmes respiratoires, des problèmes de santé, évidemment, il faut essayer de toujours prendre de l'eau, de se garder au frais le mieux qu'on peut. Hein. C'est pas facile dans les circonstances. Je voudrais remercier l'équipe aujourd'hui, Samuel Badel, qui est à la mise en onde de cette émission. Et moi, je m'appelle Denis-Martin Chabot. J'ai fait la recherche aussi de l'émission aujourd'hui. Et je vous remercie d'avoir été là. On est de retour demain, 9h30, à Canal M, et en rediffusion à 15h et 23h, et aussi n'importe quand sur le site web de Canal M.